10h48, allons retrouver Philippe Quentin. Salut Philippe.
Salut Mathieu.
Bon, le Canadien a perdu hier face aux Leafs de Toronto. Première des choses, les deux équipes luttaient pour la même place au classement, à un point de différence, ce qui est de la surprise totale.
Oui, en effet.
Le Canadien bat de façon convaincante, comme les Sénateurs l'ont fait hier, les Jets de Winnipeg. Ça va bien pour le Canadien, qui a bien joué hier, et ça va mettre un peu de pression sur Marc Bergevin. On fait quoi, là, maintenant?
Ouais, ben ça va mettre beaucoup de pression sur Marc Bergevin. Puis je sais que la direction du Canadien, par rapport à la date limite des transactions, là, qui s'en vient à grands pas, c'est le lundi 25 février, 15h, les gens vont dire « Ouais, mais Marc Bergevin ne fera pas de transactions uniquement pour plaire aux fans, puis pour que les gens soient contents, puis que tous les amateurs disent « Hey, il y a une vraie chance, là, peut-être, en séries éliminatoires de faire un bon bout au mois d'avril. » Non, ne feront pas ça pour le Canadien, Jeff Molson, Marc Bergevin, ne feront pas ça pour les fans. Mais il y a une autre clientèle, Mathieu, à laquelle la direction du Canadien doit penser, qui est encore plus importante pour le message qu'elle va lancer.
C'est celle qui a payé déjà?
Hein, ce sont les joueurs.
Ouais, exact.
Ce sont les joueurs dans le vestiaire. C'est que les joueurs, là, il n'y a pas seulement les fans qui vont regarder qu'est-ce qui va arriver à la date limite des transactions, mais également les joueurs. Et là, les joueurs, tu te mets dans la peau des joueurs du Canadien. Regarde ce qui est en train de se passer. Puis, tu sais, je parlais avec plusieurs collègues après le match de jeudi contre Winnipeg avec Jonathan Drouin qui disait, tu sais, on a vraiment confiance en nous cette saison. L'ambiance est bonne. On a une attitude agressive. Au lieu de toujours attendre sur la patinoire de ce que l'adversaire fera. On essaie d'imposer notre rythme. On a une attitude beaucoup moins attentiste que la saison précédente. On est plus agressif. Alors, cette équipe-là croit en elle. Et là, tu as des joueurs également qui sont plus vieux dans le groupe. Je pense à Carey Price qui attend depuis longtemps là, la chance d'aller encore loin en séries éliminatoires. La dernière fois, c'est 2014. Tu as Weber aussi. Alors, eux aussi, ils vont avoir les yeux sur Marc Bergevin.
Oui.
Puis s'ils croient vraiment en leur potentiel, ils vont vouloir de l'aide de leur directeur général. Alors là, c'est là que ça risque de créer une situation intéressante, parce que lui, le directeur général, il dit, il fera pas de gestes pour combler un besoin à court terme si c'est pas bon pour le long terme. Mais s'il y a une possibilité là de faire quelque chose, les joueurs vont peut-être s'attendre à ce qu'il bouge. Parce que, imagine la situation, si le 25 février à 15h, les adversaires du Canadien ont amélioré, pas sensiblement, mais un peu leur équipe, puis que lui, il n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il se dit dans le vestiaire de l'équipe?
Oui, il ne croit pas plus que ça.
Ben, les gens vont dire, les joueurs, ils veulent pas, ils vont se le dire entre eux. On aurait pu, on sait, là, le Canadien a des besoins, un petit peu de besoin en défensive, un petit peu de besoin sur le quatrième trio. Est-ce que Desluis obtenu hier peut faire le boulot? Bon, peut-être aider un peu, mais Desluis, c'est peut-être plus le Desluis qu'on a connu à l'époque à Montréal.
On est resté à celui de 2014. Là,
ouais, c'est ça, exactement, qui avait été tellement impressionnant, notamment en séries éliminatoires. Alors, moi, je trouve que ça rend tout ça très intéressant pour les deux prochaines semaines. Et là, il va falloir que Bergevin vraiment voit comment il va orienter son action dans les deux prochaines semaines qui vont être très, très importantes.
Et là, tu fais quoi? Et où? Parce que je regardais l'avantage numérique encore une fois hier. Ouais. T'as les deux premiers avantages numériques, t'as un tir. C'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Je pense qu'il faut que tu écoutes. Et moi, personnellement, je prône la patience. C'est-à-dire que je ne pense pas que même si le Canadien fait un ajout important, je vois pas le Canadien, par exemple, qui rencontrerait les Maple Leafs de Toronto, remporter une série 4-7. Je pense que le Canadien pourrait faire une bonne opposition, mais je ne vois pas aller plus loin que Toronto. Encore moins avec Tampa Bay ou sensiblement la même chose. Alors, je pense qu'il faut attendre. Puis pour moi, Mathieu, le Canadien va devenir une équipe qui va véritablement prétendre à la Coupe Stanley puis qui va être une puissance dans la Ligue nationale la journée où Jesperi Kotkaniemi, qui a tellement de talent, qui est tellement prometteur, va devenir le véritable centre dominant du Canadien, un joueur qui va s'imposer dans toute la Ligue nationale. Moi, je pense que ça va arriver. Ce qu'il accomplit à 18 ans, je trouve ça tellement encourageant, tout à fait. Mais attendons, là, il va falloir qu'il prenne ses repères à 19 ans puis à 20 ans. Puis la journée, il va devenir vraiment très, très bon. Il y aura quoi, 22, 23 ans? Alors, je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Puis tu sais, c'est la même chose. On dit beaucoup de bien de Ryan Poehling qui pourrait peut-être se joindre à l'équipe l'an prochain, mais encore une fois, Poehling, il ne deviendra pas une super vedette à sa première année dans la Ligue nationale. Lui aussi, ça va lui prendre un peu de temps pour se développer. Puis la même chose pour Suzuki, si jamais lui aussi éventuellement se greffe à l'équipe. Alors moi, je continue à prôner la patience. Je pense que le Canadien a de très bons éléments en main, mais il ne faut peut-être pas tomber dans le piège du court terme, surtout si le Canadien se classait, par exemple, troisième de sa division et puis devait affronter les Maple Leafs et éventuellement le Lightning de Tampa Bay. Je vois pas le Canadien battre ses équipes-là en séries éliminatoires. Pas maintenant.
Parlons, laissons le Canadien un peu de côté. On va aller parler de deux organisations qui en arrachent un peu, les Alouettes et l'Impact. Et on a fait des présentations de nouveaux chandails, mais bon, c'est au point de vue marketing visuel, c'est intéressant.
Oui,
et trois petits points.
Oui, voilà. Il y a trois petits points. D'abord, je pense qu'il faut saluer les initiatives. Ce sont deux organisations qui cherchent vraiment à mieux conforter leur place dans notre panorama sportif pour des raisons différentes. L'Impact, ça prend un peu plus de temps à grandir la base de billets de saison, à vraiment devenir une équipe qui va rayonner partout dans le Grand Montréal. Puis les Alouettes, je pense qu'ils ont déjà profité de ça dans le passé, mais les insuccès sur le terrain ont fait qu'il y a eu une démobilisation des amateurs qui est très importante. Alors, dans les deux cas, moi, je salue le dynamisme de la direction, autant chez les Alouettes que chez l'Impact, qui, en pleine saison de hockey, ils vont avec des événements publics, les gens sont heureux de retrouver des membres de l'organisation, et puis ça vire un petit peu en party, puis c'est le fun, puis on montre le nouveau maillot. Donc, je vois dans tout ça de la créativité, je vois de l'engagement de la direction, et ça, je trouve ça éminemment positif. Il n'y a pas d'attentisme. On y va, on fonce. Alors, bravo. Mais d'un autre côté, comme tu dis, il y a les trois points de suspension. Ça ne règle pas les problèmes importants de ces deux organisations-là. Plus important dans le cas des Alouettes, à mon avis, que dans le cas de l'Impact. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Alouettes sur le terrain, c'est une véritable catastrophe depuis plusieurs années maintenant. On essaie encore de nous convaincre qu'on verra bientôt la proverbiale lumière au bout du tunnel, mais je pense qu'il va falloir attendre un peu avant d'en être convaincu. Alors, ça risque d'être encore difficile pour les Alouettes cette saison. Souhaitons qu'ils réussissent à asseoir leur attaque avec un corps arrière qui va être capable de faire le travail pendant toute la saison, mais il y a encore de gros doutes à ce niveau-là. L'Impact, c'est un autre type de problème. L'Impact, on le sait, on se souvient tous de des déclarations de Joey Saputo au mois d'octobre dernier quand il avait convoqué une table ronde avec un certain nombre de journalistes pour discuter des problèmes de l'équipe. J'ai participé à cet événement-là. J'ai écouté ce que M. Saputo disait ce jour-là. Puis on voit qu'après toutes ces années-là, il demeurait encore un petit peu incompréhensif face au fait que l'Impact ne soit pas capable d'augmenter sa base d'abonnés de saison, de mieux rayonner au niveau corporatif aussi avec des
commandites. Moi, je te dirais que c'est l'Impact. C'est la chose que je trouve la plus... des deux portraits des deux organisations, je pense que c'est le point qui m'inquiète le plus, c'est celui de la difficulté pour l'Impact de s'implanter.
Oui, puis tu sais, on dit tous que le soccer, c'est le sport qui est en pleine montée, en pleine expansion. Les jeunes au Québec jouent au soccer, mais on dirait que cette popularité-là dans le sport de participation du soccer chez les jeunes ne se transpose pas en popularité pour l'Impact. Cela dit, ça va pas si mal que ça non plus. On a une base de billets de saison qui est pas celle espérée, mais qui est correcte. Le stade, c'est peut-être pas rempli tout le temps, mais on a tout de même pas 10 000 personnes par match. Là, on en a 19 000 ou 18 000 ou 19 000. Et parfois, on fait ça le comble aussi. Alors, c'est pas mauvais. Mais il va falloir vraiment qu'il y ait une accélération là, pour l'Impact, vraiment essayer d'atteindre un niveau supérieur parce qu'on voit que Major League Soccer progresse à un niveau tellement rapide. Oui. Les nouvelles concessions dépensent des fortunes pour des stades, pour des joueurs aussi. C'est une ligue qui va vraiment très, très rapidement dans son développement et l'Impact ne peut pas se contenter de faire du surplace. Alors, c'est un gros défi pour le nouveau président, Kevin Gilmour.
Il ne nous reste même pas une minute. Baseball, Bryce Harper, Manny Machado, qui sont les deux principaux joueurs autonomes, ont toujours pas de boulot.
Ouais, et tout à fait. Et ça, c'est un peu étonnant. Puis tu sais, nous, on annonce une tempête de neige mercredi. Ben, en Floride et en Arizona, c'est le début des camps d'entraînement du baseball. Les lanceurs et les receveurs qui vont se rapporter. Donc la saison là, ça commence dans le baseball majeur. Et oui, ces deux gros noms là, des gars qui s'attendent à obtenir des contrats chacun de 300 millions de dollars, ils attendent encore. Pourquoi? Parce que les équipes maintenant sont soumises à des taxes punitives si elles dépensent trop. La formule est un peu complexe. Je vous en ferai l'économie ce matin. Mais ça fait en sorte que des gros organisations hésitent à verser des salaires aussi importants pour des ententes à si long terme. Ça devrait quand même finir par aboutir dans les prochains jours, mais ça va être super important, super intéressant, pardon, à suivre.
Merci Philippe, salut bien.
Salut Mathieu.
À la prochaine, au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à Fred Perron à la réalisation, François Arnois à la recherche. On se retrouve la semaine prochaine, 7h. Bye bye.